Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les start-up tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces. On va terminer cette série de cartes postales sonores en nous intéressant à un autre aspect de la technologie, c'est celui des startups et notamment de l'écosystème français. Et c'est Maya Noël, directrice de l'association France Digital qui rassemble des startups et des investisseurs en Europe, qui nous en parle.
Alors, moi, ce que je retiens de l'année 2023, si on regarde peut-être à l'échelle individuelle, c'était une année assez particulière. Je pense que si tu te mets à la place d'un entrepreneur ou d'une entreprise, c'est quand même une année qui a été, je pense, fatigante. Là, quand je vois un peu tous les entrepreneurs de notre réseau, j'ai sens fatiguée. On a clairement vécu une sorte de phase d'atterrissage. On est toujours dedans suite au Covid où il y a eu beaucoup d'euphorie dans la tech. Et là, on revient à la normale. Et voilà, ça peut décourager certains dans leur course d'entrepreneur. Maintenant, si on regarde à l'échelle collective, encore une fois, ce que je disais, c'est que c'était un retour à la normale. Et quand on regarde, en fait, les 10 dernières années écoulées, on est toujours en haut d'une courbe. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'on est, c'est un peu une forme d'année de prise de maturité. Où tu perds certaines illusions, mais au final, tu consolides aussi. Et moi, je trouve que c'est que cet écosystème, il n'a pas cessé de se consolider. Et c'est une année où on est un peu peut-être revenu à nos basiques, à savoir qu'est-ce qu'une entreprise. C'est aussi tout simplement une entreprise qui cherche à trouver des clients. Et le meilleur argent, ça reste celui des clients. Et c'est vrai que quand on parle start-up, on parle souvent levée de fonds. Et moi, ce que je trouve positif dans cette année 2023, c'est que je sens qu'un nouveau focus a été fait sur... voilà, on a besoin de trouver des clients. Et ce dont ont besoin les start-up, c'est des clients privés, publics. Et donc, moi, je suis dans mes coups de cœur de l'année, je dirais qu'il y a toute l'initiative « Je choisis la French Tech » qui avait été en fait un mouvement plébiscité par France Digital depuis la création il y a 11 ans aujourd'hui de l'association. Le mouvement de dire bah, « en fait, il faut faire confiance aux startups, c'est une clé de l'innovation et c'est des prestataires comme les autres sur lesquels on peut compter ». Qu'on soit un grand groupe, qu'on soit une ETI, qu'on soit un acteur public. Et ça, c'est, voilà, c'est ce que je retiens, je pense, ce focus sur, voilà, le fait qu'une start-up, ça reste une entreprise comme une autre. Si on garde une image à 10 ans, au final, si tu compares notre écosystème de start-up aujourd'hui à ce qu'il était il y a 10 ans, on est véritablement toujours en haut d'une courbe et on est revenu sur des maîtrises qui sont similaires à 2020. Et après, même si on va un peu plus dans le détail, il y a des levées de fonds comme celle de Vercor, par exemple, donc 2 milliards d'euros levés pour lancer donc ces gigafactories de batteries. Ça, c'est des paris en capital risque qui sont assez forts, de dire on va créer des champions technologiques dans un domaine et on est capable d'investir dès le départ 2 milliards. Et ça, je pense que c'est clairement le fruit de tout ce qu'on a produit sur ces 10 dernières années en disant bah on est un pays, une terre d'innovation et on est capable de prendre des risques pour faire émerger ces innovations et on a les moyens pour le faire. Alors c'est sûr que quand on se compare aux États-Unis, on est toujours en retard, mais la progression est certaine et c'est là-dessus où je dis qu'on a véritablement gagné en maturité et qu'aujourd'hui, je suis persuadée, j'ai toujours été persuadée, mais là les signaux s'alignent pour montrer qu'on a non seulement l'ambition, mais les moyens aussi de faire émerger des géants. Et toujours pour prendre le cas de Vercor, et je pense que ça se rattache bien au point précédent sur la partie client. Vercor, c'est tout simplement l'alignement des planètes où on arrive à avoir de l'argent public, de l'argent privé pour financer le démarrage d'une entreprise, avec aussi derrière l'adossement d'un donc c'est Renault aussi qui a adossé à Vercor et qui du coup de facto va être le client direct. Et donc c'est là aussi où je dis bah si les acheteurs font confiance dans ces nouveaux prestataires, ces nouvelles startups qui vont voilà arriver en tant que prestataires dans leur carnet de commandes, on a la clé du succès quelque part. Et le troisième élément clé auquel tu rajoutes tout ça, donc t'as la partie client, t'as la partie financement, c'est les talents. Et moi, c'est l'autre élément fort que je retiens de 2023. On a sorti une étude au mois de juin sur l'emploi dans les startups, et aujourd'hui, les startups, c'est un peu plus d'un million d'emplois directs et indirects, soit plus d'un emploi sur 25 en France. Donc, c'est là aussi où je te parle de maturité, c'est qu'on aujourd'hui, les startups, c'est pas un écosystème fermé, c'est tout un pan de l'économie française qui ne cesse de grandir. Et là où on parle de ralentissement, et c'est vrai, et je pense que ce qu'on a pu voir notamment dans la presse, c'est des annonces de licenciements qui font dire qu'il y a un ralentissement, c'est certain. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'in fine, l'équation était positive. Et donc, s'il y a eu certains emplois détruits, au final, le secteur a plutôt créé des emplois, toujours. Ça a été compliqué pour certains, ça c'est évident. Mais in fine, on est plutôt dans une phase de grand nettoyage, on vient au basique, et quand on fait le bilan est quand même positif. Déjà, on se rappelle d'une certaine manière que parmi les meilleurs chercheurs, les meilleurs profils en intelligence artificielle, il y en a beaucoup qui viennent de France. Et c'est d'ailleurs pas anodin si beaucoup de grandes entreprises étrangères ont décidé d'implanter leur laboratoire de recherche en France. On a d'excellents profils. Et je pense que c'est ça que rappelle aussi Mistral AI. Mistral AI, c'est aussi un pari qui est osé de se dire, nous aussi, on va créer ce genre de modèle et on va pas se laisser submerger par un chat GPT américain. Nous aussi, on veut pouvoir créer nos modèles. Et je trouve que c'est plutôt positif, parce que c'est quand même là aussi, encore une fois, des très belles levées en seed et en série A pour Mistral. Est-ce qu'on prend la course avec suffisamment de moyens? Est-ce qu'on est suffisamment à l'heure dans cette course à l'intelligence artificielle? Je l'espère. En tout cas, voilà, c'est un très beau pari qu'on se lance. Et quand on parle d'intelligence artificielle, ce qu'on peut aussi retenir de 2023, c'est l'apparition de l'IA Act, qui a été du coup où la négociation a abouti là très récemment au niveau européen. On est le premier continent à vouloir véritablement réguler l'intelligence artificielle, et ça, je trouve que c'est un signal assez fort. On a une place à prendre en tant que Français, mais en tant qu'Européen. Le continent européen a une place à prendre sur l'intelligence artificielle. Maintenant, voilà, il y a un peu ces deux forces en jeu où on est les premiers à réguler. Ça, c'est une forme de maturité, mais il ne faut pas qu'on soit simplement là pour réguler.